Bien, bonjour à tous. Donc, je voudrais vous montrer des choses qui sont quelque part assez simples, mais à mon avis tout à fait profondes et intéressantes par rapport à ce qui nous attend et ce qui attend nos enfants sur qu'est-ce que c'est que l'informatique. Alors, ça fait 40 ans que je fais de l'informatique, ça fait 40 ans que j'entends l'informatique, c'est un outil. Ouais, bien sûr, c'est un outil, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un changement extrêmement fort des façons de voir les plus élémentaires quant au rapport au temps, à l'espace, etc. Donc, ce n'est pas juste un outil. Ce n'est pas le premier outil à faire des révolutions très fondamentales dans la façon de penser, de voir le monde. Il y en a eu d'autres, pas anodins, comme l'écriture ou l'imprimerie, etc. Et je pense que s'il y a une très belle conférence de Michel Serres là-dessus, que vous pouvez trouver sur Internet, où il dit que c'est quand même la taille au-dessus. Hein. Donc, je voudrais argumenter ça un petit peu. Évidemment, ce n'est pas une affirmation anodine. Voilà, alors vous pouvez voir tous mes cours qui détaillent ça un peu plus, surtout la science informatique d'ailleurs, avec un peu plus de détails. Donc, ben, vous trouvez les liens, vous cherchez. Si vous ne savez pas, vous demandez à vos gamins ou aux petits-enfants. Bon, alors, l'informatique, tout le monde a vu que ça faisait des grands bouleversements. Historiquement, ça a commencé par l'industrie, puis après un peu les transports, et puis etc., l'audiovisuel. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la façon dont les gens sont surpris en permanence par des changements qui sont totalement programmés. Hein, donc être surpris en permanence, enfin c'est, je parle des adultes sont surpris en permanence, et être surpris en permanence, ça indique juste qu'il manque une case dans la compréhension. Hein, donc c'est ça que je vais essayer de construire. Alors on assiste à l'heure actuelle à une nouvelle étape très fondamentale, c'est une révolution absolue des sciences. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a une conférence que j'ai donnée il y a 15 jours à la Cité des sciences qui va être disponible sur Internet. Donc révolution très profonde des sciences, je vais vous en montrer juste deux petits exemples. Révolution qui est en train en médecine, qui est aussi très profonde. On connaît en général l'imagerie médicale, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et puis peut-être un jour une révolution dans l'enseignement, mais ça c'est pas fait, j'en parlerai un peu. Donc en fait, d'abord c'est une grande science, c'est une grande industrie. C'est pas ça mon propos d'aujourd'hui. Alors d'abord l'informatique c'est quoi? Eh bien c'est essentiellement quatre choses. Bon, il y a nous dans le circuit là, pas toujours, mais il y a nous. Il y a les interfaces qui nous permettent de fabriquer de l'information sous forme numérique. On va voir ce que ça veut dire. Cette information va être processée par des choses qui s'appellent les algorithmes, les méthodes de calcul. Ça, c'est vraiment totalement spécifique à l'informatique. C'est fort ancien, hein, c'était très bien connu. Je dirais que l'écriture a été en bonne partie inventée pour permettre de fabriquer des algorithmes, mais pas que l'écriture. Hein. Les mathématiques aussi, les mathématiques ont été inventées pour justifier les algorithmes qui existaient bien avant. Hein. On dit théorème de Pythagore, ce n'est pas lui qui a inventé A2 égale B2 plus C2, il l'a démontré, mais c'était connu depuis des temps immémoriaux. Des langages, pour parler, pour écrire ces algorithmes, des machines, tout ça se mordant la queue, nous donnant des résultats par des interfaces, puis évidemment tout ça, l'informatique passe beaucoup de temps à s'occuper d'elle-même. Un circuit informatique, à l'heure actuelle, ça a, mettons, 2 milliards de transistors. Il est bien évident que la seule façon de concevoir un circuit, c'est par l'informatique. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, ce qui est très important et très sous-estimé, c'est que l'informatique n'est pas une science naturelle. Il y a deux sortes de sciences, les sciences naturelles et les sciences pas naturelles. La science pas naturelle typique, c'est les maths. Et l'informatique, c'est très proche des maths. C'est un jeu de construction. Les mathématiques, c'est un jeu de construction mentale. L'informatique, c'est un jeu de construction pratique. Et quand on compare, par exemple, à la biologie, en biologie, quand on veut faire des progrès, il faut bosser pendant 10 ans comme une bête sur ces molécules. Avec un peu de chance, on trouve un fonctionnement. Avec un peu de chance, 5 ans après, on trouve un médicament. On l'essaye pendant 10 ans, puis on le jette parce qu'il ne marche pas. Donc c'est une science très difficile, la biologie. En informatique, on construit tout. On n'étudie pas une nature, on la fabrique. Et donc, par exemple, un de mes amis qui a construit le premier moteur de recherche, ils ont commencé 2 mois après, c'était fini. D'accord, 2 mois et demi après, pour être précis, c'était fini. Ça s'appelait AltaVista, ça a juste changé le monde. Hein. Donc, c'est une science de construction. C'est pour ça que ça va vite. On n'a pas l'obstacle d'étude de la nature. Il y a autre chose qui est dans l'informatique, qui est les bugs, qui est quelque chose qui est vraiment très inhérent à l'informatique actuelle. Pour ceux que ça intéresse, je fais demain à 18h30 à la Cité des Sciences une conférence qui s'appelle « À la chasse aux bugs » où j'expliquerai ce que c'est et comment on fait pour essayer de s'en débarrasser. Bien, ce sera aussi disponible sur Internet. Alors, regardons les inversions que produisent l'informatique. La première, c'est la brisure d'une liaison millénaire, plusieurs fois millénaire, entre un type d'information et un support de cette information. L'écrit, c'était dans des livres. Donc la langue écrite est dans des livres. Les livres, c'est quoi? C'est du papier et de l'encre. Hein. Le son, c'est plus récent, mais ça se met dans des disques avec des trous au milieu. Première inversion, essayez de montrer ça à un gamin de 5 ans. Il n'a aucune idée de ce que ça peut bien être. Demandez-lui à quoi ça pouvait bien servir ce truc-là, sauf s'il a des parents qui ont un tournevis chez lui. Il n'a aucune chance de trouver. Mais vous voyez, ces choses-là étaient complètement différentes. Et puis la photo, ça marchait avec des technologies d'argent, de chimie et tout, entièrement différent encore. Et puis les forces, ça se gérait avec des ressorts et des engrenages. Et vous aviez là quatre métiers intégralement différents. Si vous vouliez faire des disques ou des livres, il ne fallait pas faire les mêmes études. Et maintenant, c'est totalement changé parce que l'ensemble des informations est transformé en nombre. Nombre, je dis bien nombre, sur lesquels on va faire les additions, des multiplications. Toutes les informations sont transformées en nombre. Et faire de la musique, faire des textes, faire, pas les écrire, mais les fabriquer, l'industrie des textes, faire de la photo ou gérer des forces, par exemple, dans un avion, c'est le même métier. Il faut avoir les mêmes connaissances. Les algorithmes pour faire du MP3 ou les algorithmes pour faire des photos, c'est les mêmes, à peu près. D'accord ? Donc, énorme changement. Unification, on appelle ça la convergence, mais en général, on ne comprend pas à quel point ça va. C'est vraiment très important. Les façons de penser sont complètement changées. Ça veut dire que quelqu'un qui est compétent en technique, je ne parle pas en art, en photo argentique, n'a aucune compétence en photo numérique. Mais vraiment aucune, et on va voir à quel point. Alors pourquoi on fait ça? D'abord, ça simplifie tout. Ces choses, ces nombres, on peut les stocker sur des supports totalement indifférenciés. On peut les copier, on peut les faire passer par Internet. On peut refabriquer les anciens objets. On peut refabriquer des objets mieux que les anciens objets, par exemple les cerveaux moteurs qui sont infiniment mieux que les ressorts, les cams et tout ça. Ou bien les compacts disques. Et puis on peut faire encore plus intéressant, on peut enlever des objets et dématérialiser quasi complètement, comme c'est fait à l'heure actuelle pour la musique ou les textes dans beaucoup de choses. D'accord ? Donc on peut améliorer. Mais surtout, on peut appliquer des algorithmes. Donc voilà M. Al-Khwarizmi, c'est sa tombe, donc, qui a vécu en Perse, maintenant c'est en Ouzbékistan, et qui a fait beaucoup de choses en maths. Et il a aussi inventé algèbre, qui vient du mot al-jabr, qui veut dire la réduction en arabe, et c'est la résolution d'équations, je ne vous en parlerai pas. Alors les algorithmes, il y en a deux sortes. Donc les algorithmes, c'est de la manipulation automatique par des machines, c'est de la manipulation automatique de l'information, donc il y en a deux sortes. Et ces deux sortes peuvent être choquantes pour des gens qui ne sont pas habitués. La première, c'est les algorithmes génériques, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à toute information sans savoir de quoi il s'agit. Quand vous envoyez une musique ou un texte sur Internet, Internet ne fait pas la différence, ne sait pas si c'est de la musique ou du texte. Et c'est pour ça qu'il fonctionne. Le Minitel savait la différence et c'est pour ça qu'il en est mort. Donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas que pour ça. Mais c'est très important. Et donc avec ça, on peut diffuser, on peut comprimer, on peut crypter et on peut copier à l'infini, ce qui évidemment est une source de problème parce que c'est la première fois qu'on peut copier à l'infini les choses à coût quasiment zéro et ça va poser des problèmes majeurs. Ensuite, il y a les algorithmes spécifiques. Par exemple, un moteur de recherche, à l'heure actuelle, ça marche sur du texte. Alors bientôt, ça marchera sur la vidéo. Vous demanderez où est-ce que je pourrais voir Grace Kelly, trouve-moi Grace Kelly dans quel film elle joue, en regardant dans les vidéos. Ça, c'est de la recherche à l'heure actuelle, mais c'est des choses qui sont faisables. Les sons, les images, on peut les comprimer. Par exemple, la TNT, vous voyez, avant, on avait 3 chaînes de mauvaise qualité sur la télé. Maintenant, à peu près dans les mêmes canaux, on en a 15 de super bonne qualité. Tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La révolution numérique, la compression d'images, des tas de maths extrêmement jolis, de la belle technologie. Et ce n'est pas un détail de passer de 3 chaînes de mauvaise qualité à 15 chaînes de très très bonne qualité avec les mêmes ressources. C'est qu'il s'est passé des choses extrêmement profondes. Bien, mais ce n'est pas tellement de ça que je vais parler. Je parlais d'inversion mentale. Tout simplement, par exemple, le traitement de texte. Alors voici un enfant de 10 ans rentrant chez son père, c'est le fils d'un copain, qui dit « Papa, le voisin a un ordinateur incroyable, tu tapes sur les touches et il imprime tout de suite. » Donc le gamin complètement allumé, il venait de voir sa première machine à écrire. D'accord ? Donc pour lui, c'était un ordinateur incroyable. Alors déjà, je le dis, mais je le réécrirai, arrêtons de dire « nouvelle technologie », c'est le mot le plus bête qui existe. Nouvelle technologie, à l'heure actuelle, ça ne veut rien dire, il n'y a que les vieilles technologies. Parce que nos enfants, ils ne connaîtront pas les machines à écrire. Ils ne peuvent pas en acheter, ça n'existe plus dans le commerce. Donc, ce n'est pas des nouvelles technologies, les ordinateurs. C'est des technologies de tous les jours, de maintenant. D'accord ? On ne dit pas que le moteur électrique, c'est une nouvelle technologie. Un jour, il faut arrêter. Et ce jour est déjà passé. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est déjà passé. Il ne faut pas faire semblant qu'on est dans les nouvelles technologies. On est dans les technologies établies. Celle-là est très intéressante. Un autre enfant que j'ai entendu dire ça très sérieusement. Pourquoi on dit que se passer de la musique, c'est du vol? Quand un copain me vole un MP3, je l'ai toujours. Alors ça, c'est quelque chose qui choque toujours les gens. J'ai discuté avec pas mal de parlementaires à propos d'Adopi et tout. Ils disent, mais quand même, quand tu me voles un CD, je ne l'ai plus. Je lui dis, mais un MP3, je l'ai toujours. Donc la notion de propriété n'est plus attachée à l'objet. Et la notion de propriété intellectuelle, pour un gamin de 8 ans, il faut expliquer longuement. Hein. Donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait des grandes difficultés associées à ça. Ce n'est pas des phénomènes anodins du tout. Le fait de copier à l'infini est un phénomène très profond. Regardons la téléphonie. Alors c'est très intéressant parce que quand le téléphone portable est arrivé en France, il a été de bon ton de le décrier. Il ne fallait pas en avoir, oh là, moi j'en ai pas, etc. Alors pourquoi c'est quelque chose d'extraordinairement important? Alors voilà la téléphonie d'avant. Donc la téléphonie des années 50, c'est vous avez Paris-Delhi, vous avez New York-San Francisco, et il faut tirer un fil en cuivre entre deux personnes pour qu'elles se parlent. Et ce fil en cuivre doit être fait avec des contacts qui vont être des faux contacts. Hein, donc ça marche comme ça peut. Ça marchait d'ailleurs quand même pas mal. Et puis, c'est un peu idiot parce que, par exemple, on tire un fil en cuivre qui est profondément inutile parce qu'il sert à transmettre les silences, ce qui est ce qu'on peut faire de plus bête. En numérique, dans les années 70, le plan français du téléphone, par exemple, eh bien, on fait quelque chose de tout à fait différent. On va couper la parole, on va numériser la parole, on va la transformer en nombre. On va mettre ces nombres en petits paquets, on va la comprimer, on va évidemment enlever tous les silences et on va faire passer ces paquets dans les mêmes fils avec des adresses dessus, comme à la poste. Et puis, on va les envoyer dans les mêmes fils et au bout, il y a la poste, ça s'appelle Cisco, qui va aiguiller les paquets. Alors, ce n'est pas tout à fait anodin, c'est-à-dire que ça, non, pardon, ça s'appelait les circuits de France Télécom. Après, il y a eu Internet qui a fait ça autrement et maintenant, ça s'appelle Cisco. Donc, l'industrie des télécoms a proprement disparu. Pas les supports physiques, hein, ça reste bien entendu, mais les centraux téléphoniques sont des objets qui sont des objets totalement disparus ou en voie de disparition. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de vraiment beaucoup plus fondamental, c'est d'enlever le fil et de faire passer les choses par l'air. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'espace. On abolit l'espace. Alors, c'est pas anodin, on n'avait jamais réussi à faire ça avant. Alors, quelques petits exemples. Premier exemple, avant, quand vous téléphoniez à quelqu'un, en règle générale, il n'était pas chez lui. Donc ça sonnait et il n'était pas chez lui. D'accord? Ça, c'était le téléphone au XXe siècle. La barrière jamais à 2000, ce n'est pas entièrement faux sur beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on téléphone à quelqu'un, la seule question qu'on pose, c'est où es-tu? D'accord? Donc ça veut dire que notre perception de l'espace a été totalement changée. Alors, la plus belle illustration que je connais, c'est ce très beau dessin de Sempé, où on voit la légende, c'est « T'es où, allô, t'es où, t'es allô, t'es où, t'es où ?» Et qui est-ce qui dit ça? Le perroquet qui est dans la vitrine de l'Oiseleur et qui regarde passer les gens avec des téléphones portables dans la rue. Et je pense que ce dessin est tout à fait extraordinaire. Je ne suis pas sûr que Sempé aime le téléphone portable, mais je pense que ce dessin est parfaitement exact. Alors, il y en a d'autres, des choses comme ça. Donc, dire « T'es où », ça veut dire qu'on sait qu'on va joindre la personne. Hein? Et alors là, les comportements des adultes et des enfants sont complètement différents. Vous n'entendrez jamais un enfant crier dans le train dans un téléphone portable. Il n'y a que les adultes qui font ça. D'accord? Il n'y a que les adultes qui crient dans le train. Vous ne verrez jamais, vous verrez rarement des enfants, de plus en plus rarement, des enfants se téléphoner direct. Commence par envoyer un SMS pour savoir s'ils peuvent se téléphoner. Parce que le SMS est discret. Les enfants sont très discrets avec leur téléphone. Enfin, il y a des contre-exemples. Alors, j'aime beaucoup celle-là, c'est le petit-fils d'un ami, je pensais que c'était Eric Spitz, mais ce n'était pas lui, Eric Spitz va arriver après, qui rentre chez son grand-père et qui voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur et qui lui dit « Pourquoi tu as mis un antivol ?» Donc ça, c'est, vous voyez que la perception même de l'objet est totalement changée. D'ailleurs, demandez à un enfant qu'est-ce que ça veut dire que de raccrocher son coup de fil avec un téléphone portable. C'est très intéressant parce que vous lui raccrochez un coup de fil. Ils donnent toujours des coups de fil et ils raccrochent, hein, les enfants. Mais alors, pour essayer de leur faire comprendre d'où vient le mot, il faut leur montrer un film de 1930. Hein. Alors, ça, c'est un copain, tout ça, c'est vrai. Hein, c'est un copain qui se baladait avec son fils sur la plage et qui voit quelqu'un qui nageait avec un masque et un tuba et qui est très émerveillé. Il lui dit, papa, il a un portable qui marche lui-même dans l'eau. Ce qui est tout à fait joli, je trouve. Ça montre que la perception des enfants, ça veut dire que le portable, c'est une partie d'eux-mêmes. Donc, vous voyez, ce n'est pas un objet artificiel pour un enfant, c'est un objet de la nature. Parce qu'un enfant ne fait pas la différence entre la mer, la montagne, le vélo, le téléphone portable. Ça existait avant lui, c'est un objet normal, on le trouve partout, donc c'est comme le sable, la terre et le pain. Alors ça, c'est un petit test que j'ai fait en Tunisie, justement, où je faisais une conf dans les lycées tunisiens. Je leur disais comment on organisait une soirée en 1999. Alors je téléphonais à mes copains. Ah zut, il n'est pas là, je rappellerai dans 2 heures. Donc organiser une soirée, ça prenait un sacré bout de temps quand même. Hein. Et les gamins, ils me regardaient, et les gamines surtout, me regardaient avec des yeux grands ouverts et disent, mais c'est incroyable ça, c'est vrai, vous faisiez vraiment comme ça, elle me dit. J'ai dit, ouais. Et vous faites comment? Ben, nous, on fait attention, hein, parce qu'on envoie un message sur Facebook, mais il ne faut pas l'envoyer à tout le monde. Donc, ce n'est pas le même problème qu'ils ont, hein, c'est d'éviter d'envoyer le message à trop de monde. Mais la chose facile, c'est de convoquer tout le monde. La chose difficile, c'est de ne pas convoquer trop de monde. Donc, c'est inversé comme système. Alors, je vais vous donner un autre exemple assez caractéristique, la photo numérique. Je vois un appareil photo numérique. Eh bien, voilà ce que c'était que la photo argentique, qui est très très bien. Je n'ai aucun problème avec la photo argentique, surtout avec les artistes, qui se fichent totalement de savoir si c'est numérique ou argentique, d'ailleurs. Mais une photo argentique, voilà, pris au grand angle, ça fait ça. Donc, vous prenez une cathédrale de tout près, parce qu'il n'y a pas de recul, et ça vous fait ça. Pourquoi? Parce que les lois de l'optique vous disent que les droites se transforment en courbes. C'est comme ça, avec un objectif grand angle, on n'y peut rien, et au tirage, ben, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand vous faites clic, c'est fini, tirage, ça, c'est la photo argentique. Vous avez des tireurs très compétents, mais là, redresser ces lignes-là, ça ne va pas trop faire. Hein. En photo numérique, c'est tout à fait différent. Quand vous prenez votre photo, au lieu que ce soit fini, ça commence. Parce qu'un appareil photo, ce n'est plus une lentille avec une pellicule, ce sont des algorithmes, des logiciels avec un objectif devant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, avec des calculs très jolis, mathématiquement c'est très sophistiqué, mais totalement automatique, vous passez de ça à ça. Et pourquoi? Parce que ces distorsions qui sont là, on les connaît, des physiciens ont travaillé comme des fous pour essayer de nous les faire comprendre, on les connaît, donc on sait les défaire. Et ça veut dire que l'intégralité du travail des opticiens d'appareils photo pendant 100 ans va être à mettre au panier. Rien de moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à essayer de minimiser ces distorsions. Et c'est totalement idiot avec les algorithmes. Pourquoi? Parce que ça fait des distorsions qui sont très difficiles à défaire. Il vaut beaucoup mieux faire des objectifs beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, qui distordent plus d'une façon où c'est plus facile à défaire. Ça vous bouffera moins la pile. Évidemment, les fabricants d'appareils photo n'aiment pas ça, parce que si on leur explique que pour faire des meilleurs objectifs, il faut qu'ils soient moins chers, ce n'est pas très bon pour eux. Évidemment, toute l'imagerie médicale est fondée sur ces principes et le son aussi. Vous pouvez maintenant acheter des disques Duke Ellington absolument fantastiques. Vous avez l'impression que le son est d'époque parce que les gens ont analysé les distorsions que faisaient les appareils d'enregistrement et les salles et ont reconstruit le son d'origine pas mal. Donc, voyez, inversion totale, c'est-à-dire qu'un appareil photo, ce sont des algorithmes devant lesquels on met un objectif. Mais la partie importante, les différences entre deux appareils photo, c'est plus dans les algorithmes que dans les objectifs. La cartographie, alors ça c'est très rigolo, parce que je discutais avec l'inspecteur général de maths pour les programmes du socle commun de connaissances de la loi de Robien. Et il me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le numérique? Parce que l'enseignement, le numérique, ça ils n'ont pas encore vu, hein. On va en parler. Qu'est-ce qu'on peut illustrer sur le numérique? Ben, je dis par exemple les cartes, c'est au programme de 5e, s'orienter sur une carte, comment vous faites? Ah ben, il me dit, ben, c'est assez simple, hein. On prend la carte, on l'ouvre. Alors moi je dis, attends, c'est pas si simple, il faut acheter la carte et savoir à quelle échelle. Hein. Ok, bon, on achète la carte, on l'ouvre, et qu'est-ce qu'on fait? On cherche où on est. Je lui dis, mais ça, on ne peut pas expliquer ça à un enfant. Parce que lui, la carte, il l'a dans la poche, il l'allume, et le seul truc qu'il sait, c'est où il est. D'accord? Il me dit, mais ça, c'était en 2006. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dis, oui, il y a GPS. Il me dit, mais personne n'a de GPS. Ah! Je lui ai dit, chez les profs. Hein. Je lui ai dit, dans 5 ans, il n'y aura plus de téléphone sans GPS. Ben maintenant, ça va devenir dur à trouver un téléphone sans GPS. Pourquoi? Parce que c'est un coin du circuit du téléphone. Ça s'appelle le GPS. Ça a un gros inconvénient, c'est que ça bouffe la pile. Mais il n'y a pas que le GPS pour se localiser. Donc, une carte, moi par exemple, je fais de la randonnée. Dans mon téléphone, j'ai l'intégralité des cartes de France à toutes les résolutions. Puis évidemment, quand je veux changer de résolution, je fais ça. Geste totalement anodin pour les enfants. Ma petite fille de 2 ans, et sur une photo papier, elle fait ça pour agrandir la tête et elle trouve ça bizarre, ça ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que pour elle, c'est un geste évident de faire ça ou de faire ça pour passer à la suivante. Ce sont des gestes tellement extraordinairement simples qu'on n'a pas à les apprendre. Bien, alors ça n'empêche pas que le reste est toujours intéressant, mais il faut comprendre que c'est fini, c'est-à-dire que la carte papier qu'on déplie, c'est bien, c'est un truc qui est bien pour nous, au-delà d'un certain âge, on a l'habitude, et pour un gamin, il faut lui apprendre à s'en servir, quoi. C'est un objet bizarre, mais c'est intéressant, hein. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut commencer à fabriquer des cours d'histoire sur la façon dont nous vivions en 1999, parce qu'eux, ils ne sauront jamais ça, ils n'ont jamais existé en 1999. Les enfants de 12 ans maintenant, rappelez-vous qu'en 1999, ils n'étaient pas vivants. Hein, donc, ça ne peut être pour eux que des cours d'histoire. Alors, j'ai un copain qui regardait Google Street View et qui trouve sa maison. Alors, moi, je n'aime pas ça comme idée, hein, mais ça, c'est autre chose. Il trouve sa maison et il appelle son gamin tout excité en disant « Regarde, c'est la maison ». Et le gamin lui dit « Pourquoi je ne me vois pas ?» Parce que pour lui, bon, c'était une photo d'il y a 3 semaines, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'était pas impressionné du tout. Ça veut dire que, encore une fois, pour les enfants, c'est la nature normale. Pour nous, c'est des prouesses extraordinaires, mais les enfants, ils s'en fichent complètement que ce soit des prouesses. C'est juste la nature. C'est comme quand on allume la télé, pour trouver quelqu'un qui est impressionné par le fait qu'il y a une image qui arrive, maintenant, ça devient dur. Ben, dans les années 50, on était impressionnés. Hein? Mais n'oubliez pas que les raisonnements qu'il faut faire pour l'avenir, c'est ceux qui s'appliquent aux gens qui ont 12 ans maintenant, pas ceux qui s'appliquent aux gens qui ont 72 ans maintenant. Ça, c'est vraiment très important. Hein? Alors, la plus forte des inversions, c'est celle-là. Une phrase que j'ai très, très, très souvent entendue, y compris dans nos grandes écoles, en essayant de leur expliquer que c'était peut-être utile que la France s'intéresse à l'informatique. Et je vous rappelle que c'est le seul pays occidental qui n'a pas construit d'ordinateur après la guerre. On me disait, mais de toute façon, l'informatique, c'est rien qu'un outil, et même un outil un peu banal. Parce que finalement, d'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis. Phrase que j'ai très souvent entendue, qui est profondément vraie. Ceci dit, il faut l'apprendre avec des pincettes. Hein. Quand on dit 4 plus 3 égale 7, y avait déjà 7 quand on écrivait 4 plus 3. Mais faire 4 plus 3 égale 7, c'est un gros intérêt, c'est qu'on comprend mieux 7 que 4 plus 3. Il y a moins d'informations dans 7 que dans 4 plus 3. Hein. Parce que 5 plus 2, ça fait 7 aussi. Donc quand on dit 4 plus 3 égale 7, on perd de l'information. Mais c'est une information qu'on préfère. Donc le fait que... On ne sort jamais que ce qu'on y a mis, ne veut pas dire qu'on n'a pas fait du bon boulot. Quand on fait la compta, à partir de chiffres totalement en tas, eh ben on ressort quelque chose qu'on aime bien analyser. Mais c'est assez banal. Le vrai changement, il est là. C'est que les gens ne s'étaient pas aperçus qu'il y a deux fois « on » dans cette phrase, et que le « deux fois on », il faisait implicitement référence à moi, l'homme du XXe siècle. Et ce qui se passe maintenant, c'est un changement fondamental de la même phrase, qui est « d'Internet, je sors ce que le reste du monde y a mis ». Et ça, ce n'est pas un détail. Parce que le reste du monde, c'est grand. D'accord ? Et ça, ça choque les gens. Ça choque les gens. Il suffit de voir la réaction des gens à Wikipédia pour comprendre que ça choque les gens. Je discute avec beaucoup de copains profs qui me disent « mais les enfants, ils copient sur Wikipédia ». Je lui disais « avant, ils copiaient sur ton tableau, quel est le problème hein ?» Il me disait, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils copient sur Wikipédia. Je dis, tu surestimes peut-être ce qu'ils comprenaient quand tu copiais sur ton tableau. Ça veut dire qu'il faut changer, il faut faire il y a des choses profondes à comprendre derrière ça. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons tous la même information, qui est la même information que l'intégralité du monde. Et ça, c'est massif, c'est absolument massif. Ça fait par exemple que la notion de mémoire change. Alors rappelez-vous, avant l'écriture, vieux dialogue de Platon et Socrate, hein, avant l'écriture, il fallait se rappeler les choses par cœur. Je vous rappelle qu'au moment de l'invention de l'écriture, les philosophes grecs ont été absolument contre. Enfin non, c'était un peu plus compliqué que ça. Beaucoup de philosophes ont été absolument contre. L'écriture détruit la connaissance parce qu'elle la fige. On a oublié ça, mais bon. Après l'imprimerie, l'Église, qui était assez partante au début, s'est aperçue que ça permettait aussi de propager des schismes et a vraiment pas aimé l'imprimerie. Et Internet, évidemment, les gens qui tenaient le savoir avant Internet ne sont pas forcément les gens qui aiment le savoir après Internet. Donc ça, c'est normal. Mais c'est fondamentalement différent. Donc maintenant, ce qui est important, c'est pas forcément de se rappeler les choses, c'est de se rappeler les liens entre les choses. C'est-à-dire Internet, c'est des liens, c'est pas des choses, c'est des liens. C'est de savoir se promener. Et là, on voit la facilité qu'ont les enfants à se promener et la difficulté qu'ont les adultes à se promener. Et on se dit que, ben, effectivement, ce n'est pas une notion triviale de se promener. Et rappelez-vous, de toute façon, le monde est celui des enfants. Ça, c'est la démographie, on n'y peut juste rien. Ou sera celui des enfants. Alors, inversion mentale, intéressante. Alors ça, c'est mes enfants. Au début, je ne comprenais rien, parce que moi, j'ai été largué comme tout le monde, bien entendu, mais j'essaie de comprendre. Mes enfants s'offraient des disques durs pleins de musique comme cadeau. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Hein. C'était de la musique piratée, je ne sais pas où. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il m'a dit, bah, c'est vraiment simple. On écoute la musique, par exemple, au hasard, et si ça nous plaît, on regarde ce que c'est. Et je dis, mais comment vous faites pour regarder ce que c'est, puisqu'il n'y a rien marqué, il n'y a pas la doc? Il dit, ben oui, ben on appelle un site internet qui nous dit ce que c'est. Par exemple, il y en a un qui est très joli, c'est des belles mathématiques, c'est Shazam. Hein, vous lui faites écouter sur votre téléphone, vous lui faites écouter 15 secondes de la musique, et il vous ressort la pochette du disque. Donc ça, c'est l'univers normal des enfants. Donc cet acte absolument stupide de s'offrir des gigaoctets de musique, parce qu'évidemment, on n'offre pas un fichier PDF en paquet cadeau. Hein. On offre 5000 heures de musique. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment une autre façon de voir la notion de mémoire. On n'a pas besoin de savoir les choses, il faut savoir comment savoir les choses. On n'a pas arrêté d'essayer de m'apprendre ça à l'école, que l'important n'était pas d'apprendre par cœur, mais d'apprendre à retrouver, ce qui n'est pas vrai. Les spécialistes de la mémoire vous disent qu'il faut les deux. Mais là, c'est vraiment à une autre dimension. Alors, production de musique en ligne, j'aime beaucoup cet exemple, parce que vous savez que les majors de musique ont beaucoup de problèmes, mais là, il y a des sites qui font des choses très intéressantes, parmi toutes les créations qu'il y a sur Internet. C'est des gens qui font de la musique, et ce qu'ils font, c'est de dire, voilà, on va mettre des musiciens sérieux, ils sont un peu screenés au départ, on va les mettre sur un site, et ensuite, on va dire aux gens, misez sur ce musicien. Par exemple, vous mettez 1000 euros sur ce musicien, quand il a 100 000 euros, là, il fait des disques, des concerts et tout, vous partagez les bénéfices. Eh bien, allez voir ces sites, vous allez voir la qualité des musiciens. Et là, les musiciens prennent leur risque, les gens qui les regardent prennent leur risque, alors qu'avec les majors, cette notion de prise de risque n'était pas du tout au même niveau. Hein. Et c'est très intéressant. Et de manière générale, le travail collaboratif à grande échelle, ça c'est une nouveauté. Par exemple, Linux ou Wikipédia. Linux, c'est un exemple. Wikipédia, les gens disent qu'il y a un problème de qualité éventuellement, ça dépend des sujets. Mais Linux, il n'y a pas de problème de qualité. C'est de loin le logiciel qui marche le mieux dans tout ce qu'on n'a jamais fait. Et c'est fait entièrement par des bénévoles. Totalement structuré. Mais à travers le monde, communiquant uniquement, quasiment uniquement, par courrier électronique, et extraordinairement professionnel, encore plus professionnel que les professionnels des entreprises, ou au moins autant. Et c'est un logiciel qui est fabriqué sur un mode complètement bénévole. Donc ça, ce n'est pas spécialement courant, le bénévolat à très très grande échelle. OpenStreetMap, c'est pareil, vous savez, c'est Google Maps dans lequel vous pouvez donner vos informations. Tiens, là, il y a un banc sympa. Tiens, ce distributeur de banque là. Tiens, il y a ça qui est cassé ici, ou le métro ne marche plus. Et ça, c'est mis, et c'est tout à fait bénévole aussi, et c'est mis en ligne sur votre téléphone ou sur n'importe quoi instantanément. Alors, ça peut être assez foireux hein, dans les forums. Ce n'est pas spécialement intéressant, souvent. Puis évidemment, ça pose des problèmes énormes d'autorité centrale, d'autorité dispersée, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il y a eu des découvertes très fondamentales qui font un peu froid dans le dos hein, par rapport à ce qu'on peut en attendre. Voilà une découverte extraordinaire de Google. Quand on vous dit que Google est... Vous savez, il y a un truc qu'on ne comprend pas en France, c'est sur les 5 premières capitalisations boursières, ce n'est pas tout la capitalisation boursière, mais ce n'est pas rien non plus, il y a 4 sociétés d'informatique, dont 3 entièrement dématérialisées. Hein. Enfin, 2 entièrement dématérialisées, c'est Apple, Google, Microsoft, IBM, et puis il y a McDonald's après. Donc, voici un truc intéressant, c'est les médecins mesurent la grippe. Mesure les épidémies. Et là, on s'aperçoit, par exemple, en ce moment, qu'il n'y a pas de système de vigilance sur les intoxications en Allemagne, hein, ce qui est assez intéressant. Il n'y a pas de centralisation des cas d'intoxication en Allemagne. Ça existe dans plein d'autres pays, mais pas en Allemagne. On voit comment ça... Hein, la grippe. Donc, la grippe, c'est quoi? C'est des médecins envoient des lettres ou des mails ou n'importe quoi à un institut qui collecte tout ça et qui va faire des statistiques sur la grippe. Et donc, c'est la courbe jaune. Donc, on voit les pics de grippe, à quel moment ils arrivent, où ils arrivent. Ça se fait par ville, évidemment, etc. Ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué et cher. En bleu, vous avez Google. Alors, que fait Google? Il fait un truc ultra simple et qui ne coûte rien du tout, sauf quand on ne s'appelle pas Google, qui est de compter les questions que posent les gens sur la grippe. Avec le truc très, très simple, que s'il y a la grippe dans une ville, tout le monde se rue sur Google pour dire c'est quoi la grippe, comment ça se traite, comment on fait pour l'éviter, ça. Bon, mais ça fait juste la même courbe. Ah, alors, maintenant, vous pouvez savoir que Google, évidemment, il dit, tiens, mais au fait, les élections, c'est un sujet intéressant, etc. Donc, tenir l'information. Google, ce qu'il tient, c'est deux choses, c'est la pub et les clics des gens. Il sait ce que font les gens. D'accord ? Et ils vous espionnent vraiment. Et Amazon, quand il vous dit, tiens, vous aimerez peut-être ce bouquin, ce n'est pas idiot ce qu'il fait, et c'est des choses difficiles pour faire ça, mais c'est assez étonnant. Donc, qui tient l'information n'est pas en France, et qui tient l'information est en train de prendre un pouvoir considérable. Et ça a dit quelque chose qui est une inversion complète par rapport à tout ce qui avait été fait avant. Par exemple, tout ce qui était fait dans les entreprises, ou même dans les journaux, c'était « organisons l'information ». Et ce que dit Google, c'est « oh, si vous la désorganisez, ça marchera peut-être encore mieux ». Alors, ce n'est pas toujours vrai, la compta vaut mieux que ce soit organisé. Mais, par exemple, à l'heure actuelle, tous ces moteurs sont au travail dans le monde, dans les archives, des journaux, etc., bien entendu. Mais il n'est pas nécessaire d'organiser l'information, parce que si vous organisez l'information, c'est en prévision de questions que vous savez que vous allez poser. Or, vous ne savez pas quelles questions vont poser les gamins de 12 ans. Bien, alors évidemment, il y a des tas de questions qui se posent. Je suppose que tout le monde en discute en ce moment. Disparition virtuelle de l'espace et du temps, ce n'est pas simple à gérer, surtout quand on n'est pas né avec. Quand on est avec, ben, c'est juste le monde qui est comme ça. Hein, la relation réelle virtuelle chez les enfants. Alors là, je m'insurge. J'ai entendu des tas de gens me dire, mais les enfants, ils sont dans le virtuel. À mon époque, au moins, j'étais dans la lecture. Mais pour trouver plus virtuel qu'un roman, ce n'est pas facile. C'est un autre virtuel, mais il ne faut pas penser que les adultes de maintenant n'étaient pas dans le virtuel quand ils étaient gamins. Ils lisaient des romans. Et éventuellement, le Club des Cinq et tout, c'est complètement virtuel. Alors effectivement, dans le virtuel actuel, il y a beaucoup de dangers et de choses comme ça. Bon, inflation d'informations, je ne vais pas vous faire un dessin. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens d'accord. Par exemple, la démocratie sur Internet, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens d'accord que les choses sont vraies. Enfin, ça, ce n'est pas nouveau. Simplement, là, maintenant, c'est une grande échelle. La propagation de rumeurs, c'est vraiment une grande échelle. Comment sauvegarder les choses? Les gens se sont excités tout d'un coup en s'apercevant qu'on ne les sauvegardait pas. Bon, pour information, L'Oreille en coin, une émission que j'adorais à France Inter, ils ont voulu faire un CD, d'extrait de L'Oreille en coin. Ils ont trouvé 0 minute de L'Oreille en coin sauvegardée. Heureusement, ils en ont trouvé des enregistrements pirates chez les gens. Bien, maîtriser les nouvelles dépendances. Par exemple, il y en a une que personnellement, je pense, on ne discute pas du tout assez, c'est le gratuit. Le gratuit, tout est gratuit. Alors, c'est pas vrai, tout est financé par la pub et on s'est mis à aimer la pub. Moi, je regrette, je ne vais pas mettre à aimer la pub juste parce que c'est gratuit. Alors, n'oubliez pas ça, hein, ces questions ne sont nouvelles que pour les vieux. Hein. Pour les autres, elles sont standard. Et ça, j'ai déjà dit. Bon, alors évidemment, il y a l'Internet des objets, enfin les objets informatisés, donc les pucerons qui sont partout. Sachez qu'il y a quand même, il va y avoir, pour l'instant c'est un facteur 10, il y a 10 fois plus d'ordinateurs dans les objets que dans les ordinateurs. C'est-à-dire ce que vous pensez être un ordinateur, en fait c'est 1/10 du total, et ça va être beaucoup plus. Par exemple, votre voiture, eh bien, c'est essentiellement un gros tas d'algorithmes. Et ce qui va se passer, par exemple, c'est, est-ce que c'est intéressant de conduire une voiture ? Moi, je discute avec pas mal de pilotes d'Airbus parce que mes outils ont été utilisés pour faire de la 380, par exemple. Et il y a deux sortes de pilotes, c'est très marrant. Il y a effectivement ceux qui ont piloté des vrais avions, comme ils disent, qui disent, mais on a dans un Airbus, on a un joystick en plastique, on ne sent pas l'avion. Puis il y a les jeunes pilotes qui disent, de toute façon, piloter, il n'y a rien de plus ennuyeux, donc c'est très bien comme ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas des notions simples. Hein. Donc, par exemple, évidemment, la notion de conducteur. Il est évidemment aberrant que deux voitures se rendent dedans à un carrefour. Il n'y a pas besoin de conducteur pour savoir qu'il y a quelqu'un qui vient de la droite quand même en 2011. D'accord ? Il y a tout à fait moyen de savoir qu'il y a une autre voiture à droite. Les voitures peuvent savoir ça toutes seules. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire extrêmement lentement parce que d'abord, les gens dans les voitures, il y a des problèmes légaux, etc. Mais enfin, c'est évident que ça finira comme ça. Il y a un truc qui est idiot dans l'automobile, c'est le conducteur. D'ailleurs, par exemple, on sait bien qu'un conducteur normal ne peut pas freiner. Il n'y a qu'un frein électronique qui peut freiner. Il faut être pilote de course pour savoir freiner. Alors, je vais terminer par un tout petit peu de science. Eugène Wigner avait dit en 60 une phrase très intéressante. Les mathématiques ont eu une réussite insolente en physique. Ça date de Galilée. Hein. On met le monde en équation et cet abruti de monde, il suit les équations. C'est incroyable et c'est vrai. Enfin, c'est vrai jusqu'à maintenant. Donc, on met en équation, puis on calcule avec nos petites mimines. Mais nous, calculer, bon, une équation, on en met 3 déjà, on ne sait plus trop calculer. Mais ça ne fait rien, on a fait des prodiges. Et puis on a des petites machines, puis on observe. Mais en informatique, on va aller dans toutes les sciences, y compris celles qui n'étaient pas mathématisées. Pourquoi ? Parce que d'abord, on peut fabriquer des instruments numériques. Je vous en montrerai un. On peut mettre en calcul, et pas seulement en équation. Par exemple, mettre en équation, pour les hommes, 10 équations, on est foutu. Hein. 2 millions, 20 millions d'équations, ça se traite tous les jours. Ou plus, ça se traite tous les jours en informatique. Il n'y a pas que les équations, on peut faire des tas d'autres choses, je vais vous en montrer. On peut faire du raisonnement logique à très grande échelle. Un humain raisonne avec 3 variables logiques, un ordinateur avec 3 millions. On peut faire des expériences virtuelles. Alors voilà un exemple d'expérience virtuelle. En astronomie, ça c'est une expérience que les astronomes n'ont pas encore pu se payer. C'est faire exploser une supernova. Et on est content qu'ils n'aient pas pu se la payer. Supernova, c'est quoi? C'est une étoile en fin de vie qui va exploser puis imploser. C'est absolument monstrueux, une supernova. On en voit une tous les très très peu de temps. Et ce qui se passe, c'est très intéressant, les supernovas, c'est qu'il y a beaucoup de matière qui est créée dans ces turbulences et qu'il faut les étudier. Bon, la seule chose qu'on peut faire pour étudier les supernovas, à part les regarder quand elles arrivent, eh bien, c'est de modéliser les supernovas à l'aide de quelques millions d'heures de calcul, ce qui n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir 1 million d'ordinateurs pour avoir 1 million d'heures de calcul pour ces problèmes-là. Et après, on va pouvoir mesurer d'autres choses. On va pouvoir en déduire des choses, comme on le faisait avant avec les maths, et pour vérifier que, par exemple, les rayons qu'on observe à la sortie de cet objet sont bien les bons. On voit là dans un autre domaine, en médecine, donc il y a un grand projet en France qui s'appelle CardioSense 3D, qui est une modélisation complète du cœur. Mais complète, ça veut dire modéliser l'anatomie, l'électrophysiologie, hein, c'est électrique, les battements, c'est lancé par l'électricité, la mécanique des solides, la mécanique des fluides, comment le cœur est nourri. Donc de faire un modèle numérique, de faire un patient numérique. Et pourquoi faire? Ben parce qu'après, vous avez le modèle numérique du cœur, vous arrivez avec vos mesures, on vous cale le modèle numérique dessus et on vous fait de la thérapie, du diagnostic, etc. Ça se fait avec des vrais médecins, hein, ça se fait avec des cardiologues. Et par exemple, à Carpentier, le président de l'Académie qui a annoncé la sortie du cœur artificiel, qui est un truc énorme en physique, en informatique, en maths, en tout ce qu'on veut. Hein. C'est toujours des mélanges de physique, d'informatique, de maths, tout ça. Et par exemple, voici un exemple tout bête, on voit un enfant qui a visiblement un problème, une déformation, et les chirurgiens savent très bien réparer ça en coupant, mais ils ne savent pas où il faut couper. Donc ils y vont à leur expérience, qui est grande. Mais l'idée là, c'est de modéliser en 4D, donc avec le temps, modéliser le cœur pour prévoir les rendements du cœur une fois réparé. Donc ça, c'est rien, mais c'est immense ce qui est en train d'arriver en médecine, que ce soit dans le cœur, dans d'autres organes. Par exemple, dans la chirurgie, il devient normal maintenant, dans les chirurgies un peu difficiles, de travailler en image virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, que le chirurgien a une superposition du corps réel et de l'image virtuelle, par exemple, du foie. Pour les opérations du foie, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il sait où est le foie, alors qu'il ne peut pas le voir à cause du sang, à cause des tissus, mais il sait où aller. Il sait où aller parce que simplement on a une projection virtuelle à l'intérieur du corps. Bon, donc ça va aller dans des domaines extraordinaires. Alors j'adore cet exemple. Cet exemple, c'est la simulation d'un pommier. En fait, de toutes les familles de pommiers. Alors pourquoi cet exemple est-il intéressant? Parce que c'est de la botanique, c'est là qu'on n'attend vraiment pas l'informatique. Et la botanique s'est posé la question de classifier les plantes. Ça a été fait merveilleusement. Mais la question qu'elle n'avait pas les moyens de se poser, c'est quoi une plante? Et là, pour faire cette simulation, vous voyez le pommier qui pousse à travers les âges, avec tous ses cycles, ça simule la croissance des cellules du bourgeon terminal, hein, avec des paramètres mathématiques tout à fait bien. Il n'y a pas beaucoup de paramètres pour faire ça. Il faut comprendre ce que c'est qu'un pommier. Non pas en tant que molécule, ce qui est de la biologie classique, mais en tant que système d'information. Quel est le système d'information qui fait qu'un pommier pousse comme ça? Et un pommier, ça se décrit avec peu de variables. Il faut 20 variables principales, puis un petit peu sur les côtés, et vous faites varier ces variables, vous obtenez toutes les familles de pommiers. Et on sait caractériser beaucoup de formes d'arbres, etc. Mais donc, la question, c'est vraiment, c'est quoi un arbre? Et ça, c'est une question complètement différente de celle qu'on se passait avant. Vous regardez l'ADN dans les bouquins, la reproduction de l'ADN, bon, pour arriver à la comprendre, c'est vachement dur. Mais là, vous avez un très beau film fait par des biologistes. Il n'y a pas encore la résolution qu'il faut sur les molécules. Ça, c'est ce qui se passe dans vos petites cellules à vitesse réelle. Vous saviez que ça se passait à cette allure-là, la reproduction de l'ADN? Ça va vite, hein. Et heureusement, parce que l'ADN, c'est très gros. Donc, c'est maintenant des choses comme ça. Comme bon, il y a tout un tas de films disponibles sur la transcription de l'ARN, etc. Et la forme exacte de toutes les molécules qui sont dessinées en gros, ça donne une vision très différente. Potentiellement, parce que la biologie, c'est compliqué. Ça donne une vision très différente de tout ça. Mais derrière ça, il y a des grandes questions. Donc, il y en a plein qu'on va discuter ici. Il y en a une qui est absolument massive, c'est la sécurité. Problème extrêmement dur, mathématique très compliqué d'ailleurs. pour ceux que ça intéresse, tout le cours de cette année au Collège de France sur la chaire informatique et sciences numériques, c'était Sécurité informatique par Martine Abadi, qui est un très grand chercheur du domaine. Par exemple, si vous voulez savoir pourquoi on ne peut pas faire de vote électronique fiable, par exemple à l'échelle nationale, regardez l'exposé de Ron Rivest. Il expliquera très très bien pourquoi on ne peut absolument pas se passer de papier pour faire un vote. On peut les faire électroniques quand même, mais de façon astucieuse. Les micro-bugs sont des portes d'entrée pour les pirates. Donc ça, j'expliquerai ça demain pour ceux qui veulent voir ça. Des tout petits bugs absolument stupides, par exemple sur la longueur d'un formulaire dans Internet Explorer, permettent aux pirates de prendre la main sur votre machine. Et vous pouvez très bien avoir votre machine, sans que vous en sachiez rien du tout, transformée comme un robot qui va attaquer le Pentagone. Ça, c'est aucun problème, vous ne serez jamais au courant. C'est comme ça. La sûreté, c'est très dur de faire de l'informatique qui marche. On s'en aperçoit de plus en plus. Parlez-en à Sony en ce moment, ils vous raconteront que la vie est dure. La gestion du passé, il y a énormément de vieux trucs en informatique dont personne ne sait comment ils marchent et donc on ne peut pas les enlever pour les remplacer par autre chose parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ça, c'est assez dangereux. Un exemple très bien, c'est le contrôle aérien américain en particulier. Alors, je voudrais terminer par ça. L'enseignement est absolument, glorieusement absent. Et ça, c'est assez unique au monde. L'enseignement français est absent. Donc, le numérique est le monde des enfants, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils le consomment. Ils le consomment. Hein. Et les inversions mentales sont un problème profond pour le système d'enseignement. Par exemple, pour les profs, on a attendu en France pour voir si le sujet allait exister. Ça fait juste 30 ans qu'on attend. Et mais maintenant, pour les profs, il y a une très grande difficulté. C'est eux, ils ne sont pas à l'aise avec un ordinateur. Aller devant une classe qui leur explique comment on s'en sert, ça ne va pas favoriser l'enseignement. Donc ça ne va pas être fait en deux jours. C'est un énorme problème. On est complètement en retard mondialement. La discipline n'est pas reconnue. C'est vrai ailleurs. À l'Académie des sciences, c'est assez simple. Il y a 6 informaticiens, 7 maintenant, pour 230 académiciens. L'informatique, c'est 30% de la R&D mondiale. Comparer les chiffres. 18% en Europe. Mais on commence. Il va y avoir un premier enseignement qui va rentrer en 2012 pour expliquer la vraie informatique. Hein. Parce que pendant longtemps, et j'étais à la tête au carré de France Inter, il y a des profs qui ont râlé, qui ont écrit plein, qui ont envoyé des courriers en disant « c'est pas vrai, on enseigne l'informatique aux jeunes, on leur apprend un sévère de Word et d'Excel ». J'aurais dit « ouais, c'est comme si vous pensiez que vous enseignez la physique quand ils passent le permis de conduire ». Je vais terminer là-dessus. Ben, l'informatique va complètement façonner le 21e siècle. Si le 20e siècle était le siècle de l'énergie et de l'informatique difficile, le 21e siècle sera le siècle de l'énergie difficile et de l'informatique facile. Il faut s'y habituer. Donc c'est ceux qui sauront faire les deux qui seront du bon côté. Je n'ai pas l'impression qu'en France, on s'oriente ni vers l'un ni vers l'autre pour l'instant, mais ça c'est autre chose. Elle pose des questions nouvelles. Bon, ça c'est mon métier. Mais la vraie question, c'est de choisir son camp. C'est est-ce que nos enfants, on en fera des consommateurs des technologies américaines et asiatiques ou bien des créateurs du monde de demain ? Hein ? Et cette question-là, je n'ai jamais vu posée par personne. Quand je vois les projets gouvernementaux en informatique, c'est creusons des trous, posons des fibres, pour simplifier. Alors ça, c'est sûr, il faut faire ça, mais ce n'est pas du tout ce qui est fait ailleurs. Pas du tout. Hein ? Voilà.